Voilà, la présidence parlait de roi. Et ce matin, tu mets la première image, Pedro. Ce matin, fin de notre série de réflexions sur cette thématique, être et vivre le royaume de Dieu. J'espère que ce sont des choses qui ont pu interpeller, encourager, faire réfléchir. Comment faire avancer le royaume de Dieu là où j'en suis, c'est-à-dire en moi, et là où je suis, c'est-à-dire autour de moi. Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu? Visible que Dieu règne en moi? Des questions qui peuvent être un peu dérangeantes, il faut bien le reconnaître. Peut-être que l'on culpabilise parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. C'est vrai que nous ne sommes pas à la hauteur et nous l'avons souligné semaine dernière. D'autant plus que Jésus enfonce le clou, on l'a dit, en nous confirmant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais il souhaite avant tout, non pas nous rabaisser, et encore moins nous humilier dans le mauvais sens du terme, mais bien nous aider à nous fortifier, à grandir en lui et avec lui. Je ne sais pas s'il faut dire à nous améliorer, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas à nous faire avancer sur le chemin avec lui. Et c'est bien parce qu'il est guide, soutien, auteur de notre foi, même initiateur de notre vouloir et de notre faire, dit un verset, qu'il peut nous inviter et même nous emmener sur un chemin peut-être pas facile et même exigeant. Il ne dira en effet pas moins que « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Il y aurait de quoi le culpabiliser en voyant que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais non, au contraire, à nous qui nous le connaissons comme roi et comme ami, Jésus nous dit plutôt « Voici l'objectif que je te propose. Viens, donne-moi la main et allons-y ensemble, je t'emmène. » C'est comme ça que je le comprends en tout cas, que je comprends son attitude vis-à-vis de nous. Comment être et vigne et vivre le règne de et le royaume de Dieu ? Le mois dernier, nous avons évoqué quelques pistes concernant l'Église rassemblée. Semaine dernière, d'autres pistes concernant les temps où l'Église est dispersée, quand nous sommes hors de ses murs et hors des autres réunions communautaires, en regardant d'abord le fait de vivre le royaume dans nos familles. Et aujourd'hui, nous continuons ces considérations concernant l'Église dispersée avec le dernier volet, être et vivre le royaume de Dieu dans notre interface avec le monde au sens large. Être et vivre le royaume de Dieu dans nos relations interpersonnelles. Et on sait combien ça peut être un défi. Alors, j'essaye ça, voir si ça marche. À chaque fois qu'on essaye avant, ça marche toujours. Et à chaque fois qu'on veut l'utiliser, qu'on en a besoin, ça ne marche pas. C'est pas grave, donc si tu mets la 2, s'il te plaît. La fin du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens a servi de passage principal dans notre réflexion dimanche dernier concernant la famille et le couple en particulier. Et dans une série d'exhortations concernant les relations humaines, l'apôtre Paul poursuit dans le chapitre suivant, chapitre 6, écrivant, donc Éphésiens 6 à partir du verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Choquant peut-être pour nous ces versets, on pourrait peut-être essayer de les atténuer en utilisant le mot « serviteur » dans le sens de « domestique » plutôt que le mot « esclave », ce qui serait possible, hein, car en grec, le mot original a les deux significations, à la fois « serviteur » simplement et aussi « esclave ». Mais la mention « d'homme libre » au verset 8 me semble faire donc légèrement contraste avec celui d'homme « pas libre ». Donc des esclaves. Cas extrême et choquant dans notre culture aujourd'hui en tout cas, mais malheureusement pas nécessairement choquant pour l'époque. On estime que dans l'Empire romain, près d'un tiers de la population était probablement esclave. Un tiers. Et à Rome, où il y avait une concentration particulière des riches et des nobles, et donc de gens à leur service, probablement les deux tiers de la population étaient esclaves. Choquant peut-être aussi pour nous le fait que Dieu, Jésus, puis le christianisme naissant, ne se soient pas immédiatement et radicalement élevés contre cette pratique inhumaine. Ce que l'on peut en dire dans le cadre de notre réflexion ce matin, c'est que la révolution que Dieu amène par Jésus-Christ, la révolution que Paul, inspiré par Dieu le Saint-Esprit, met noir sur blanc dans ce passage, n'est pas guerrière, n'est pas violente, n'est pas une révolte, mais elle est pourtant bel et bien radicale et révolutionnaire. Elle n'est cependant pas nécessairement celle attendue. Et je la résume par deux versets que l'on a déjà considérés par le passé. Premièrement, une parole de Jésus, qui dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et deuxièmement, un autre écrit de Paul, « Sois vainqueur du mal par le bien. » Si ça, c'est pas révolutionnaire, mais c'est une autre logique, un autre combat. C'est une chose impossible qui est demandée aux esclaves, humainement, naturellement, culturellement impossible, à moins d'avoir un cœur transformé par Dieu. Ce que seule la conversion à Jésus-Christ et la régénération par le Saint-Esprit peut rendre possible, être et vivre le royaume et règne de Dieu en étant esclave. Ainsi ont pu le faire de très nombreuses personnes, de très nombreux chrétiens, car Jésus les avait vraiment affranchis par sa force toute puissante, pour reprendre les mots de Paul de notre passage, peut-être pas socialement, mais spirituellement en tout cas. Ça peut sembler facile à dire pour moi aujourd'hui, dans le confort dans lequel je suis. D'aucuns diront peut-être même que c'est méprisant à leur égard, d'oser dire ça. Pas du tout, je crois en effet que, même s'ils ont pu encore être esclaves, ils avaient vraiment en Christ la liberté principale, l'essentiel. Peut-être l'ont-ils même plus ou mieux compris que moi le sens de cette liberté, la profondeur de cette liberté offerte en Jésus-Christ. Et c'est aussi pour cela que j'ai inclus dans la lecture de notre passage ce dernier verset qu'on a lu d'Éphésiens 6, verset 12. Il n'est pas hors de propos, tout au contraire. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. C'est vrai que le christianisme n'a pas appelé à la révolte des esclaves contre le système, ou contre les maîtres et les tyrans qui pouvaient y avoir, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La lutte n'est pas contre des hommes, fussent-ils tyranniques, oppresseurs, fussent-ils injustes, propriétaires d'esclaves, votre propriétaire même peut-être. La lutte est contre le mal, contre Satan et ses démons. Une autre logique, un autre combat, spirituel avant tout. Petite parenthèse quand même, en soulignant cela, ni la Bible, ni moi dans une moindre mesure, ne disons qu'il ne faut pas s'indigner contre l'injustice, ou qu'il ne faudrait pas dénoncer le péché et toutes ses conséquences. Ça me semble plutôt clair qu'il le faut, absolument. Mais pas nécessairement de la façon naturelle, de la façon du monde, pas avec les mêmes objectifs et encore moins avec les mêmes armes que ne le ferait le monde. Je rappelle que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, c'est ce qu'on a lu dans la première partie du culte. Fin de la parenthèse. Une autre logique, un autre combat spirituel avant tout. Ainsi l'écrivait Paul à l'époque. Et cette vérité a-t-elle changé ? Non, je ne crois pas. C'est toujours le cas. Mais bien heureusement quand même, cependant, aucun d'entre nous n'est ici esclave. Je ne sais pas si nous avons déjà été vraiment reconnaissants au Seigneur pour être nés à une époque où ce n'est plus la norme. Et du coup, cela devrait peut-être nous aider à relativiser nos difficultés et nos relations humaines aujourd'hui. Ça nous fait relativiser beaucoup de choses, je pense. Vis-à-vis d'un patron, qu'il soit sympa ou abusif, vis-à-vis d'un collègue, qu'il soit serviable ou insupportable, vis-à-vis d'un voisin, qu'il soit cordial ou imbuvable, vis-à-vis de l'agent des impôts, de la personne que j'ai au téléphone au sujet de mon problème d'allocation, de la caissière au supermarché, de la directrice de l'école des enfants, qu'il ou elle soit avenant et souriant, ou au contraire peu aimable et acerbe, vis-à-vis de l'artisan qui travaille bien ou qui m'arnaque, au contraire, vis-à-vis du maire, du député ou du président de la République, qu'ils prennent de bonnes ou de très mauvaises décisions, vis-à-vis du personnel des urgences qui ne semble pas prêter attention à ma douleur et où je dois attendre des heures, vis-à-vis de cette personne qui roule comme une tortue devant moi sur la route, ça c'est pour moi celle-là, vis-à-vis de cette personne qui semble raconter sa vie au guichet devant moi alors qu'il y a une file d'attente interminable dans laquelle je suis coincé. On pourrait faire une très longue liste de gens avec lesquels nous avons une relation directe, ou seulement très indirecte. Mais envers tous, nous qui ne sommes pas esclaves, nous qui sommes privilégiés avec une liberté extraordinaire, agissons. Agissons, et je reprends les termes de Paul, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ, comme à Christ, même vis-à-vis du patron ou de la directrice, ultra pénible. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Une volonté de Dieu qui est souvent contraire à nos impulsions peut-être naturelles de réagir un peu plus de façon épidermique. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Non, mais François, Paul n'a pas dit ça par rapport à tous ces gens-là. Vous croyez que l'extrapolation que j'ai faite soit totalement antibiblique ? C'est vrai que j'ai largement élargi, et j'assume le pléonasme. Et chacun des mots de Paul n'est peut-être pas précisément applicable à toutes les personnes ou toutes les situations évoquées dans ma liste d'exemples, toutes les personnes avec lesquelles nous pouvons être en relation, plus ou moins proche, plus ou moins longue, plus ou moins fréquente. Je ne pense pas qu'il faille seulement circonscrire ces demandes, ces exigences au monde du travail, aux relations professionnelles, patron-employés, qui serait celle qui se rapprocherait peut-être le plus de celle maître-esclave de notre passage. Nos aînés qui ne sont plus dans le monde du travail au sens strict, ou nos jeunes qui n'y sont pas encore, sont aussi concernés, au même titre que chacun et chacune par toutes ces relations interpersonnelles possibles auxquelles nous pouvons être confrontés ou amenés à être impliqués. Être et vivre le royaume de Dieu et le règne de Dieu dans nos relations interpersonnelles. Toutes nos relations interpersonnelles. N'est-ce pas, entre autres choses, agir ainsi, comme le demande Paul, qui est ce à quoi nous sommes appelés ? Penser ainsi ? Je crois que si. Nous ne sommes pas esclaves, alors le risque et la difficulté me semblent moindres. L'exigence pour nous me semble bien moindre que pour eux. Mais pourtant, je redirais quand même que, même pour nous, à notre petit niveau, malgré tous nos privilèges et toutes nos libertés, ça reste une chose impossible qui nous est demandée par Dieu. Impossible humainement, naturellement, culturellement même. À moins d'avoir un cœur transformé par Dieu. On revient au constat de départ rappelé tout à l'heure. Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Transforme-moi. Continue à me transformer. Ce qui est attendu de nous est vraiment une façon de vivre, une façon d'agir, une façon de réagir d'une toute autre logique, dans un autre combat que celui de défendre nos propres intérêts. C'est pas évident, hein ? À titre personnel, c'est pas évident, en tout cas, dans beaucoup de situations. Être et vivre différemment, être et vivre de façon différente, de façon remarquable, dans tous les sens du terme. Premier épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9, l'apôtre Pierre qui nous dit « Vous, au contraire, » donc au contraire voulant dire qu'il y a une différence par rapport à d'autres, hein, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu au jour de la visitation. Verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire, comme des serviteurs de Dieu. Comportez-vous en hommes et femmes libres. Et le contexte culturel n'a pas du tout changé quand Pierre écrit ces lignes. Hein. Il est toujours dans cet empire romain où un tiers de la population est esclave. Et donc une très large proportion de chrétiens dans l'Église est de fait constituée d'esclaves. La liberté dont Pierre parle n'est pas non plus la liberté sociale, mais ici encore, comme on l'a déjà dit, la liberté acquise en Christ, telle la liberté par rapport au péché, la liberté dans l'accès à Dieu, la liberté de savoir et de pouvoir vivre différemment de ce que le monde nous enseigne et nous apprend. Et en Christ, un chrétien a entre autres la liberté de se soumettre. La liberté de se soumettre. Liberté contre-intuitive, mais liberté réelle. Liberté de ne pas agir ou réagir comme notre nature pécheresse nous y pousserait. Liberté de ne pas agir ou réagir selon la logique du monde. Liberté de ne pas agir ou réagir comme Satan nous y excite. À l'exemple de Christ, qui a été parfait jusqu'à la croix. C'est sûr que c'est une autre logique, un autre combat. Et le point que je souhaite avant tout souligner ici, et qui est une précision qui n'est pas explicitée dans le passage de Paul de tout à l'heure, mais qui donne tout son sens à notre action, explique le pourquoi il nous faudrait faire cela. C'est ce que dit Pierre au verset 12, la finalité. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu au jour de la visitation. Qu'ils rendent gloire à Dieu au jour de la visitation. Peut-être que dans vos traductions, elles sont un peu différentes, elle est un peu différente, la fin de ce verset, la fin de cette phrase. Certaines diront qu'ils rendent gloire à Dieu au jour où il les visitera. C'est Louis II, ou au jour de son intervention, dit la Nouvelle Bible II, ou au jour de sa venue, dans la Tobe, ou encore au jour où Dieu interviendra dans leur vie, explicite la traduction Semeur. Quelques nuances, mais globalement une compréhension du fait que Dieu visitera ses non-croyants, interviendra un jour ou l'autre dans leur vie, et alors ce que nous aurons pu faire. Alors, je ne sais pas s'il faut dire, ils s'en souviendront, mais d'une certaine manière, cela leur aura servi de témoignage, et en tout cas, ils s'en serviront pour rendre gloire à Dieu. C'est ce que dit le passage. Ils s'en serviront pour rendre gloire à Dieu. Alors, soyons clairs, hein, certains rejetteront la visite et l'intervention de Dieu dans leur vie, et ils ne lui rendront gloire que quand il sera trop tard, et quand ils seront face à face avec Dieu, en quelque sorte malgré eux. Ils rendront gloire néanmoins. Ce n'est pas le cas de tous. Un certain nombre, et puisse ce nombre, par la grâce de notre Dieu miséricordieux, être un grand nombre, un certain nombre l'accueilleront dans leur cœur, dans leur vie, se laisseront sauver par lui, et effectivement rendront gloire à Dieu en connaissance de cause, en connaissance de qui il est, en compréhension du sacrifice qu'il a fait pour eux. Et ainsi, quel que soit le cas de figure, dit ce texte, notre témoignage de vie n'est pas vain. Il n'est jamais vain. Soit Dieu l'utilisera pour parler à ces gens, pour les convaincre, les sauver, et amen, s'il te plaît, Seigneur, fais cela dans leur cœur, dans leur vie. Soit, ou plutôt en tout cas, ce que nous aurons pu faire ou dire leur fera au final rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Que cela puisse donc nous motiver quand nous nous posons la question, mais pourquoi moi je devrais réagir différemment alors que tout le monde fait comme ci ou tout le monde fait comme ça. Ce que nous faisons selon la volonté de Dieu, conformément à ses demandes, servira à rendre gloire à Dieu. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Des non-croyants en particulier ou bien tous? Tout dépend peut-être de la motivation que nous cacherions éventuellement derrière une telle question. Un jour, un homme est venu voir Jésus pour le questionner. À un moment de la conversation, Jésus lui a sorti la parabole du bon samaritain. Nous l'avons étudiée ces dernières semaines en étude biblique. Et à ce propos, un commentateur a dit « Le citoyen du royaume ne cherche pas un prochain, il est prêt à être lui-même un prochain pour quiconque. » Le texte biblique précise que cette parabole a été donnée parce que cet homme cherchait à se justifier en demandant « Mais qui est mon prochain ?» Avec l'objectif, évidemment, de faire que le prochain, il n'y en ait pas trop. Parce que c'est quand même difficile. Si tout le monde est mon prochain, c'est difficile. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Même si on peut légitimement se demander envers qui plus spécifiquement agir, fixer des priorités, pourquoi pas. Encore que je ne suis pas sûr que nous sachions toujours mettre les mêmes priorités que Dieu. Et même s'il y a des occasions particulières, il y en a certainement. Et même si des opportunités spéciales, il y a aussi, oui, c'est sûr. Mais je crains, ou plutôt je crois, que ce verset ne souffre pas d'exception au milieu de tous les non-croyants. Oui, la tâche est vaste. Et pour y réfléchir concrètement à nos relations interpersonnelles diverses et à notre vocation d'être et vivre le règne et le royaume de Dieu, je reprendrai simplement les mêmes questions que celles soulevées dans la première prédication de notre série. Quels sont vos défis du lundi au vendredi, du samedi, du dimanche? Vos difficultés, vos réussites, vos accomplissements? Comment peut-on s'aider mutuellement? Comment puis-je vous aider? Comment pouvez-vous m'aider? Comment l'Église peut-elle aider? Que peut-on ou doit-on mettre en place pour cela? Je pense que c'est important qu'on réfléchisse ensemble à ça et que si vous avez des idées, que vous les partagiez, si vous avez des bonnes recettes, entre guillemets, que vous les partagiez, etc. Et en tout cas, qu'on partage aussi les fardeaux, les difficultés. C'est ça aussi l'Église. Une des clés, c'est certainement le partage sur ce sujet. Et je peux que nous y encourager et m'y encourager aussi. Et la première chose que nous pouvons certainement faire ensemble, et les uns pour les autres, c'est évidemment prier, s'encourager. Et vous aurez remarqué qu'il est fréquent pour les églises de prier pour les missionnaires. Et on fait bien, c'est une belle et bonne chose. Il est fréquent de prier, de penser aux pasteurs, ou aux aumôniers en particulier dans la prière. Et nous faisons bien, c'est une belle et bonne chose, et je vous en remercie personnellement. On prie aussi souvent, en tout cas souvent au moment de la rentrée scolaire, pour les enseignants. Ils ont en effet un travail de transmission important. Pendant les confinements du Covid, on a aussi prié pour le personnel soignant. Très bien aussi. On prie aussi assez souvent pour s'engager dans l'humanitaire. Et on fait bien là encore. Mais il me semble que l'on ne prie généralement pas pour les chrétiens informaticiens. On ne prie pas spécialement pour les chrétiens coiffeurs, les chrétiens comptables, les chrétiens staffeurs, etc., etc. Le monde du travail est de fait souvent un des lieux importants en termes de relations interpersonnelles où nous avons cet appel à agir différemment vis-à-vis de ceux que l'on croise. Et je rajouterais aussi qu'on prie souvent pour la santé des personnes âgées, et on fait bien là encore, mais très peu pour leur mission à eux aussi. On prie souvent pour les jeunes et leurs études. Très bien. Mais on le fait aussi peu pour leur mission à eux aussi. Idem pour les parents au foyer. Quelle mission ? Eh bien, celle que nous avons tous, celle d'être et de vivre le règne et le royaume de Dieu là où nous sommes. Celle de le partager alentour, en acte ou en parole, vis-à-vis de toutes les personnes que nous croisons. Il n'y a pas de retraité en la matière. Il n'y a pas de trop jeune pour cela. Et pas d'endroit où ce n'est pas vrai. Pas de métier ou de ministère particulier pour cela non plus. Nous sommes de fait tous dans le ministère, tous avec la vocation d'être chrétiens, là où nous sommes, et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Que l'on soit coiffeur, cuisinier, horticulteur, enseignant, informaticien, quel que soit notre métier. Se porter et s'encourager toutes et tous à refléter Christ dans toutes nos relations interpersonnelles. On oublie certainement souvent cela, l'Église oublie certainement souvent cela. Stimula dis, Pedro. Voilà. Luther, au temps de la Réforme, donc à peu près 500 ans, disait « Il n'y a pas de tâche trop séculière pour que Dieu s'y intéresse ». À son époque, il y avait effectivement une claire distinction entre ce que l'on considérait comme profane et ce qu'on considérait comme sacré. Mais il a redécouvert que c'est un mensonge du diable, car de fait, selon Dieu, toute activité fait partie de notre vocation chrétienne. Et ce faisant, a besoin de soutien. Faire un partage entre le sacré et le séculier est un mensonge, parce que cela insuffle la fausse idée que ce qui est activité religieuse ou spirituelle appartiendrait à Dieu et que les autres ne lui appartiendrait pas. Évidemment, la Bible ne dit pas du tout cela. Au contraire. Et si Luther pouvait dire cela, c'est notamment sur la base du premier verset du passage de l'Épître de Pierre de tout à l'heure, qui dit que nous sommes tous des prêtres royaux. Nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu, diront d'autres passages. Quelle que soit notre activité, qui est alors de fait sacerdoce et ministère. Si nous allons acheter du pain, si nous allons acheter le journal, si nous faisons les courses, si nous faisons du rangement, du ménage, si nous parlons avec le voisin, si nous allons au travail, si nous sommes retraités et que nous faisons une partie de belote avec les copains, peu importe, dans toutes ces circonstances, dans toutes ces activités, nous sommes effectivement prêtres pour Dieu et ses représentants. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le dimanche que Dieu s'en désintéresse, au contraire. Au contraire, nous sommes ainsi, dans toutes nos relations interpersonnelles, aux avant-postes du royaume. J'espère que ce n'est pas pour nous un fardeau ou une cause de culpabilisation, mais au contraire peut-être un sujet de fierté. Fierté de ce que Dieu a fait de nous, ses ambassadeurs. Magnifique, non ? Quelle grâce et quel privilège de sa part. Et en même temps, faisons-nous toujours cela, enfin tout ce que nous faisons avec cette conscience-là, d'être les représentants de Dieu? Vivons-nous toute relation avec cette conscience-là, d'être les représentants de Dieu? Si nous avons cette conscience-là, alors je pense que oui, réellement, Dieu régnera et je serai son royaume, assurément. Fort de cette compréhension, un chrétien disait: je suis motivé par ma semaine parce que je sais que Dieu m'y attend. Ayons toujours une bonne conduite au milieu des non-croyants. Aimable, équitable, patient, juste, bienveillant, pardonnant, paisible, accueillant, vrai, etc., etc. Avec le collègue, avec le patron, avec le subalterne, avec le client, avec le voisin, le facteur, la boulangère, le caissier, le gendarme, le démarcheur téléphonique, non, pas cela, l'aide à domicile, l'électricien, le prof, l'élève, le patient, le technicien, le sans-abri, etc., etc., etc. Peut-être que c'est un peu difficile pour nous. Alors je répète les questions qu'on a vues à celle d'avant. Si tu remets la 9, Pedro. Quels sont vos défis du lundi au vendredi, du samedi, du dimanche? Vos difficultés, vos réussites, vos accomplissements? Comment peut-on s'aider mutuellement? Comment puis-je vous aider? Comment pouvez-vous m'aider? Comment l'Église peut-elle nous aider? Que peut-on et doit-on mettre en place pour cela? On va bousculer un peu nos petites habitudes et je vous propose qu'on se mette par petit groupe de 2, 3, 4, 5. Passez juste quelques minutes à partager peut-être un sujet spécial par rapport à ça ou une idée. Et puis on peut... passer quelques minutes à prier par rapport à ça. Et notamment ceux qui sont retraités. Voilà. Moi, je suis retraité, mais je fais encore ceci dans une association, ou ceci avec des voisins, ou pas. Je croise des aides à domicile ou autre. Et si vous êtes en activité professionnelle, peut-être que votre voisin ne sait pas ce que vous faites. Enfin, votre voisin de chaise, je veux dire. Et c'est l'occasion de le partager, pour qu'effectivement, on puisse tous se porter les uns les autres. Alors continue à porter les pasteurs, je suis volontaire, à porter les aumôniers, à porter les malades, etc., évidemment. Mais portons-nous aussi, effectivement, quelle que soit l'activité que nous avons, en pensant à cette responsabilité et en même temps ce privilège d'être ambassadeur de Christ dans toutes nos relations interpersonnelles, les professionnels en particulier, mais pas que. Voilà, donc quelques minutes pour ça, si vous voulez bien, sortir un peu de nos habitudes. Ce n'est pas juste moi qui parle le dimanche, mais qu'effectivement on puisse prier, partager un peu avec ça.